Ce matin, j'ai choisi un message après avoir prié, demandé au Seigneur une direction, et j'ai été, touché à nouveau par un passage qui se trouve en Matthieu chapitre 9. Alors c'est peut-être un rappel pour certains, mais sur mes notes, j'ai marqué que j'avais prêché ce message en 2006, donc je pense que la plupart d'entre vous n'étaient pas là. Et ça se trouve en Matthieu chapitre 9, et on va lire à partir du verset 35 jusqu'au chapitre 10, verset 1. Donc chapitre 9 de Matthieu, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Prions, s'il vous plaît. Père éternel, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour le nombre que nous sommes. Merci de nous gracier dans ta présence, dans la connaissance de ta parole et de ton Fils Jésus-Christ. Merci de ta parole qui est une lumière sur nos sentiers. Et merci, Seigneur, de ce qu'elle nous rassure, elle nous enseigne, elle nous aussi motive. Elle nous pique dans nos cœurs, dans nos retranchements. Elle nous fait sortir de nos propres cœurs afin de nous mettre au pied de la croix pour nous sanctifier, pour nous réveiller, pour nous motiver à marcher de l'avant avec toi. Merci de bénir ta parole et tu as promis qu'elle ne reviendrait pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Tu es souverain sur ta parole et nous t'en bénissons et nous donnons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci de garder nos cœurs et nos pensées dans ta présence ce matin. Amen. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de regarder au monde qui nous entoure et à tous ses besoins et d'être comme écrasé par le fait de tous les moyens qui seraient nécessaires pour atteindre le monde perdu? Un jour, cette expérience m'est arrivée alors que j'étais dans mon bureau, j'étais pasteur d'une église baptiste au Québec. Et je reçois, on reçoit toujours dans les églises toutes sortes d'informations sur les besoins missionnaires. Et là, une seule mission représentait les besoins qu'il y avait pour la mission. Et ces besoins étaient extrêmement nombreux. Besoin de missionnaires, besoin d'évangélistes, besoin d'enseignants, de pasteurs, besoin d'ingénieurs, de techniciens, de médecins, d'infirmiers, infirmières, etc., etc. Et quand je regardais toute cette liste, je me dis, mais qui est suffisant pour répondre à tous ces besoins? Qui est suffisant pour répondre aux besoins de faire connaître, comme notre frère introduit ce matin le culte, très justement, la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Qui est suffisant? Eh bien, dans ce texte ici, il y a une réponse. C'est Dieu lui-même qui nous donne une réponse au travers de son Fils Jésus-Christ. La première réponse, c'est que la vraie motivation de l'œuvre missionnaire, c'est l'amour des âmes perdues, c'est la compassion. Jésus est écrit ici qu'il fut ému de compassion. Est-ce que nous sommes aussi nous-mêmes touchés par la compassion de Dieu pour atteindre les âmes perdues? Et le deuxième aspect ici que l'on esquissera rapidement, en chapitre 10, verset 1, c'est la méthode de Jésus, c'est d'envoyer les disciples. Et au départ, il a envoyé ses 12 apôtres, ensuite il enverra les 70 disciples, revêtus de toute l'autorité divine, faisant des miracles, etc. Et ensuite, le monde sera évangélisé parce que les disciples se multiplient, et c'est la volonté de Dieu qui est multiplication de disciples pour atteindre le monde perdu. Mais au départ, ça prend une vraie motivation, qui est celle que Jésus avait en voyant la foule. C'est la compassion, de voir la foule avec des yeux divins. Jésus voyait la foule avec ses yeux. Est-ce que nous voyons le monde qui nous entoure avec des yeux surnaturels, les yeux de l'amour de Dieu, les yeux de la compassion de Dieu? Est-ce que nous réalisons les besoins des gens qui nous entourent? Est-ce que nous les voyons tels qu'ils sont? Ou est-ce que nous nous arrêtons aux apparences, n'est-ce pas? Peut-être même à l'abondance matérielle, sans regarder le fond du cœur de l'homme, n'est-ce pas? Comme saint Augustin a dit, qui est un vide en forme de Dieu. Les gens peuvent réussir dans ce monde, mais s'ils sont sans Dieu, la Bible dit qu'ils sont sans espoir, sans espérance dans ce monde, et donc privés de la gloire de Dieu à venir, car la Bible dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Le salaire du péché c'est la mort. Alors on comprend Paul qui disait l'amour de Christ nous presse, parce que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité, qui est mort pour eux et qui est ressuscité pour eux. Est-ce que nous avons des yeux surnaturels qui nous font voir les gens qui nous entourent avec la compassion de Dieu? C'est la vraie motivation de l'œuvre missionnaire, du croyant qui annonce la bonne nouvelle, la motivation. Alors la question de ce matin ici, est-ce que nous avons des yeux de compassion? Est-ce que nous voyons les choses et les gens comme Dieu les voit? J'ai presque envie de dire, arrêtons-nous un instant et prions, prions. Seigneur, fais que nos yeux te regardent et regardent au monde perdu avec tes yeux. Nous t'en prions ce matin, au nom de Jésus. Amen. Ici, Matthieu nous enseigne que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. C'est la bonne méthode pour annoncer l'Évangile. Il faut aller, et la Bible dit, de faire toutes les nations des disciples. Là, Jésus avait pour mission, de la part de Dieu le Père, d'annoncer la bonne nouvelle partout en Israël, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle d'un côté d'instruction, d'enseignement, et guérissant toute maladie, toute infirmité. La puissance de Dieu le Père revêtait Jésus, le Fils de Dieu, Dieu incarné, et par cette toute puissance, il enseignait, il guérissait, il chassait les démons. Et il y avait toute une différence. Mais il savait qu'un jour, il allait partir et il devait passer ce fardeau et cette puissance divine à ses disciples. Et alors, il leur enseigne, n'est-ce pas, à aller de faire toute une nation de disciples. Il y a toute une méthode progressive pour enseigner les disciples de la part de Jésus et aller et de faire toute une nation des disciples. Mais ça commence par un enseignement profond. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Bon, il y a un petit PowerPoint ce matin, j'espère que ça va vous aider. Dans le contexte ici, c'est qu'en fait, les disciples étaient des observateurs de ce que Jésus était en train d'accomplir, mais ils n'étaient pas encore des acteurs. Il y a un temps où Dieu nous demande d'observer avant d'être nous-mêmes un acteur et de comprendre la vraie motivation et la méthode avec laquelle Dieu veut nous utiliser. Donc c'est un passage clé dans l'Évangile et la stratégie de l'évangélisation du monde enseignée par Jésus lui-même. Ça commence comme cela. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Ça me fait penser que dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire lorsqu'on pense que Dieu voit avec des yeux ou qu'il touche avec des mains, c'est une façon de donner une image de Dieu comme étant un homme, alors qu'en fait il est Dieu, bien sûr, il n'a pas des yeux comme nous, il n'a pas des mains comme nous, mais on peut dire par métamorphose, oui, qu'il a des yeux. Et la Bible dit ceci, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu observant les méchants et les bons. Vous avez jamais rencontré des gens qui pensent que Dieu n'a rien à faire avec eux, qui ne sont pas connus de Dieu, que Dieu ne peut pas les observer? Mais la Bible dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Ça veut dire que Dieu connaît chaque être humain, même la Bible dit qu'il connaît jusqu'au nombre des cheveux de chaque individu sur la terre. Alors prenez votre calculatrice, calculez le milliard de gens qu'il y a sur la terre et faites un calcul moyen du nombre de cheveux, n'est-ce pas, enracinés, bon, plus ou moins, n'est-ce pas, fournis pour certains, et vous allez voir que ça multiplie les chiffres. Ça veut dire que Dieu sait tout. On ne peut pas fuir la face de Dieu. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu et ils sont à un endroit précis. Dans le cœur de l'homme, Dieu observe ce qui se passe. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. On ne peut pas dire « Je suis un inconnu de Dieu ». Dieu connaît chaque être humain sur la terre. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Non seulement Dieu observe les individus, mais il observe aussi les nations. Moi, j'aimerais vous dire ceci, c'est que, en contraste avec parfois, vous n'avez jamais fait face à des gens qui, tout d'un coup, dans leurs yeux, vous mitraillent, où vous voyez un manque d'amour, de la méchanceté, de la jalousie, de la haine. J'aimerais nous rassurer ce matin et affirmer que les yeux de l'Éternel donnent un regard d'amour, de paix, de joie, de bonté, de miséricorde. Dieu voit de ses yeux la foule et les gens avec plein d'amour. Donc si nous plongeons nos regards dans le cœur de Dieu, nous devrions aussi, nous, avoir des yeux envers le monde qui se perd, plein d'amour, de miséricorde et de bonté. Dieu voit le monde avec amour. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est le monde en général, mais tous les individus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque, l'individu, ne périsse point, c'est un avertissement à la perte éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une grande assurance. Dieu s'intéresse au monde, mais il s'intéresse à l'individu. Alors, notre besoin, tout d'abord, c'est de voir comme Dieu voit, voir les choses et les gens avec des yeux spirituels. Si vous me permettez, j'aimerais vous raconter un petit peu une partie de ma vie, une anecdote. Tout ça pour illustrer, glorifier le Seigneur, évidemment. Eh bien, moi-même, un jour, j'ai dû me mettre à genoux au pied de mon lit et dire au Seigneur, voilà, je suis un pécheur. J'ai commis telle faute et j'avais en tête une faute, n'est-ce pas, qui me semblait être grave devant Dieu. Et je l'ai confessé à Dieu. Et savez-vous quoi? Quand j'ai confessé ce péché à Dieu et que j'ai cru en son pardon, j'ai ressenti pour la première fois l'amour de Dieu. Ah, j'avais essayé par ma religion et différentes œuvres et actes, n'est-ce pas, de gagner l'approbation de Dieu, mais j'avais jamais connu et ressenti son amour. Et quelle paix dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pu voir la vie de la même façon. La Bible dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc même notre façon de voir change. J'étais dans la rue, je voyais un mendiant, et tout d'un coup, j'avais de la compassion pour lui, j'avais envie de l'aider. Le lendemain matin de ma conversion, la première chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de réaliser que mon propre père, ma maman étant décédée d'un accident d'automobile, et mon propre frère étaient perdus. Je n'avais jamais pensé qu'on était perdus. Moi-même, je ne pensais pas que j'étais perdu. Mais le moment où Dieu m'a sauvé, j'ai réalisé ce que ça voulait dire de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et tout d'un coup, je voyais clairement mon propre père avait besoin du Seigneur. Mon propre frère avait besoin du Seigneur. Il est question de l'éternité. Et j'étais touché pour prier pour eux. Et je me souviens un jour, et une autre petite anecdote, en étant allé à la CLC ici, une librairie chrétienne, n'est-ce pas, prendre des livres. Et tout d'un coup, je pensais à mes parents, enfin mon père et mon frère, et mon père et ma belle-mère, mon père s'est remarié. Et tout d'un coup, sans que je puisse contrôler cela, je pleurais. Il a fallu que je sorte du magasin et je pleurais. J'étais tellement ému de penser que ma famille était perdue. Mais avant, je vivais égoïstement. Je pense que je vivais surtout pour moi-même. Je ne pensais pas à vivre pour les autres. Mais tout d'un coup, j'ai réalisé, oui, ce que c'est que d'avoir les larmes de Jésus en voyant et en pensant à ceux qui se perdent. Parce que l'éternité est longue sans Christ. Et pour terminer cette illustration, pour vous donner une idée de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Je me souviens un jour, je témoignais dans la rue à un ami qui était notaire et ce jour-là, je ne sais pas, il y avait comme une petite tristesse. D'habitude, il y avait beaucoup de joie de témoigner. Alors le Seigneur dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et là, prie le Seigneur. Alors j'ai fait cela et le Seigneur m'a montré qu'en fait, il voulait tout mon cœur. Il voulait ma vie. Moi, j'étais ambitieux, je voulais réussir, j'avais un métier. Le Seigneur m'a dit non. Donne-moi ton cœur, sois missionnaire pour moi. Et j'ai dû céder. Et j'ai vu Jésus sur la croix en train de mourir pour mes péchés, en train de souffrir par moi et de me dire, tu vois ce que j'ai fait pour toi, et toi, que feras-tu pour moi? Jésus est mort pour moi, et en échange, j'ai voulu lui donner ma vie. Et un jour, il m'a appelé, à être à Paris. Et j'étais au plateau Beaubourg, j'ai dit, Seigneur, si tu me veux là, à Paris, il faut vraiment que tu touches mon cœur. Et pareil, le Seigneur m'a donné tout d'un coup une compassion pour les âmes, ces centaines de gens qui étaient là. Plateau Beaubourg, j'aimais bien l'architecture, vous savez, et dû à mon métier aussi. Et le fait de voir ce bâtiment se remplir de visiteurs, et ces milliers de gens qui étaient là, tout d'un coup, j'ai senti une telle compassion de Jésus envers ces gens-là. Et j'ai pleuré pour ces gens-là. Pour vous dire tout simplement que c'est une œuvre qui vient de Dieu dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas pleurer pour les âmes si Dieu ne pleure pas au travers de nous. Nous ne pouvons pas avoir de compassion pour les âmes si ce n'est pas Dieu qui compatit au travers de nous. La leçon ici, c'est de se tenir proche de Dieu pour avoir les mêmes sentiments que lui a. On ne peut pas se plonger dans le cœur de Dieu sans avoir ces sentiments d'amour pour le monde perdu. Le manque d'amour, parfois dans l'Église, c'est le fait qu'on ne passe pas assez de temps dans le cœur de Dieu. Mais le manque d'amour envers le monde perdu, c'est la même chose. C'est que nous ne passons pas assez de temps dans le cœur de l'amour de Dieu pour avoir compassion comme lui a compassion. Réfléchissons ce matin, un instant. Avons-nous de la compassion pour le monde perdu? Avons-nous de la compassion pour les gens qui nous entourent? Ou vivons-nous égoïstement sans voir les gens dans leurs vrais besoins spirituels éternels? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il fut de compassion, il fut ému de compassion. Savez-vous quoi? Que Dieu est plein de compassion. Jésus fut ému de compassion. Mais parlons un instant de la compassion de Dieu. Les yeux de Dieu, la compassion de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire compatir? Peut-être que vous avez quelques réminiscences de latin, comme moi j'ai dû faire du latin, on m'a obligé de faire du latin. Quelques années, je n'ai pas retenu grand-chose, mais je me souviens que le mot compatir vient de deux mots latins, cum patir. Patir, souffrir, cum avec. Compatir, souffrir avec. En fait, la compassion, c'est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles aux maux d'autrui. Et la Bible nous enseigne clairement que Dieu est un Dieu de compassion. J'aimerais vous lire quelques textes qui sont merveilleux et qui parlent de la compassion de Dieu. J'aime l'Éternel. C'est merveilleux. Le psalmiste entame sa prière en disant « J'aime l'Éternel », psaume 116, verset 1. « Il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. » Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme, l'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. Dans la détresse, le psalmiste qui met toute son espérance dans la délivrance de l'Éternel croit en sa délivrance à cause du fait que Dieu est plein de compassion. En psaume 40, verset 11, « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Avoir de la compassion de Dieu dans nos cœurs, c'est simplement, en quelque sorte, refléter la nature et le caractère de Dieu. Et sa compassion, elle est synonyme de fidélité. Elle est synonyme de miséricorde, de bonté, d'amour éternel, de paix, de pardon, de restauration, de grâce. Ce sont tous ces mots qui sont associés aux mots miséricorde et compassion de Dieu. Jésus avait aussi de la compassion. Il fut ému de compassion. Ici, ça souligne une forte émotion. Comme si cette émotion touche le plus profond de son être. D'ailleurs, dans le sens grec ici littéral, ça part des parties internes du corps. En fait, il fut touché, on pourrait littéralement traduire, dans ses entrailles, dans l'intérieur de son être, là où il y a le siège des émotions. C'était un très fort sentiment. Pourquoi? Parce que Jésus savait exactement où se trouvait la foule. Il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue. Il voyait avec des yeux tels que Dieu veut que nous voyons, des yeux spirituels qui nous permettent de réaliser où se trouvent les gens. J'aimerais vous donner quelques exemples de la compassion de Jésus-Christ. Il est écrit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Jésus n'était pas insensible à la vue de la foule. Jésus était plein de compassion. Il connaissait les besoins physiques et les besoins spirituels. Les besoins physiques, dans ce cas-là, c'était qu'il y avait des gens malades et il a guéri les gens malades. Jésus y a appelé ses disciples et dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Et puis, je vous le lis rapidement, mais c'est merveilleux de voir Jésus, comment il a exercé ce ministère de compassion durant sa vie sur terre. Par exemple, en Matthieu chapitre 20 et au verset 29, il est écrit, « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de Dieu, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Cela était vrai pour les aveugles et je pourrais continuer la liste. J'ai les passages ici, je ne voudrais pas trop prolonger le message ce matin. C'est vrai aussi pour les lépreux. Ému de compassion, Jésus a guéri les lépreux. C'est vrai aussi pour le fils de la veuve de Naïm qu'il a ressuscité parce qu'il était ému de compassion de voir la situation. Cela aussi est vrai dans la parabole du bon samaritain. Et cela est vrai pour toujours. Si vous avez un besoin particulier, matériel, physique, spirituel, vous pouvez vous tourner vers Jésus, car la Bible dit en Hébreu, chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Quelle est votre faiblesse ce matin? Quelle est ma faiblesse? Je peux me tourner vers Dieu en sachant qu'il est plein de compassion envers moi. Et c'est ce qui a touché le cœur de l'apôtre Paul. C'est ce qui a touché le cœur de l'apôtre Pierre. C'est ce qui a touché le cœur de l'apôtre Jean. C'est ce qui a touché des missionnaires au travers du monde comme William Carey, le fondateur de la mission protestante, Hudson Taylor, Charles Studd, Livingston, Adoniram Johnson, John Knox, Billy Graham, et toute la liste est longue des hommes et des femmes de Dieu qui ont donné, qui ont donné leur vie, Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, etc. Tous ces gens ont donné leur vie au Seigneur parce qu'ils ont été touchés dans leur cœur par l'amour de Dieu pour les gens. La mission, c'est une question d'amour pour les gens. La vraie motivation pour le salut des âmes et le désir de voir des âmes sauvées, ce n'est certainement pas notre gloire, ce n'est pas certainement la gloire d'une église, c'est l'amour des personnes. Est-ce que nous sommes mus par cette compassion et cet amour et les gens voient que lorsque nous leur parlons du Seigneur, nous avons l'amour du Seigneur dans nos cœurs? Vous savez ce qui m'a attiré personnellement alors que j'étais étudiant en architecture, je faisais un stage chez un architecte, il pouvait faire beaucoup de choses. Il pouvait me dire beaucoup de choses, je ne comprenais pas grand-chose qu'il me disait. Je faisais partie des gens raisonneurs et incrédules. Mais ils ont été patients. Mais je savais quelque chose. C'est que dans leurs yeux, je ne pouvais pas le définir, ils avaient quelque chose que je voulais avoir. Jusqu'à ce que je découvre qu'ils avaient la lumière du Seigneur et l'amour de Dieu dans leur cœur. Et ça se voyait dans leur regard, dans leurs yeux. Leurs yeux pétillaient de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui m'a attiré à eux. C'est ce que je voulais connaître, sans savoir ce qu'ils vivaient. Je tâtonnais moi-même, mais je voulais toucher à ce qu'ils touchaient, parce qu'ils étaient remplis de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui m'a gagné au Seigneur. C'est l'amour d'un couple qui patiemment m'a parlé du Seigneur. Alors est-ce que nous avons cet amour pour les perdus? Pierre dit... Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et Paul dit en Éphésiens 4, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je dois vous faire une confession. C'est qu'un jour, je me suis irrité contre mon voisin. Il a construit, et quand il a bâti son chemin, toute ma haie, avec des poteaux et... du grillage était complètement de travers. Et il n'a jamais voulu accepter que c'est à cause des travaux que ma Marie était de travers. Il m'a dit, non, il faut tendre un peu plus ton tendeur qui est en dessous du grillage. Et je me suis dit, quand même, cet homme, il est pas juste. Hein. Il ne veut vraiment pas accepter ses erreurs. Et donc, je quelque part, je m'irritais. Et puis, je n'avais pas trop envie de lui dire bonjour. Et puis, un jour, je me suis dit, non, mon attitude n'est pas correcte. Par compassion de son âme, je suis allé lui demander pardon de mon attitude. Et j'ai commencé à vouloir vraiment aimer ce voisin. Parce que je me suis dit, en tant que croyant, tu ne peux pas garder de l'amertume, même si tu as vécu une injustice, je dois montrer quelque part de l'amour envers cet homme. Il faut que notre amour pour les gens dépasse nos propres intérêts. Il faut que les gens voient dans nos cœurs que nous avons plein d'amour et de compassion envers eux. Et la Bible dit que Jésus fut ému de compassion parce que la foule était languissante. Elle était abattue. Le mot languir est synonyme d'un abattement moral, d'un affaiblissement physique. Je vous lis ce que dit le dictionnaire. C'est souffrir de la continuité, de la durée d'un supplice, d'un besoin, d'une attente. C'est en fait dépérir, c'est en fait la dépression. Languir ici, dans le mot grec ici, c'est d'arriver à un point où il y a une souffrance qui ne semble jamais pouvoir être guérie. Et être abattu, c'est d'être affaibli, c'est d'être découragé. Voyez-vous, Jésus a vu la vraie situation, l'état réel des cœurs des gens qui l'entouraient. Et quand il a vu cet état de langueur, d'abattement, il fut ému de compassion parce qu'il regardait au cœur. Savez-vous que la France est le pays d'Europe qui prend le plus d'anxiolytiques et même, je penserais, de plus d'antidépresseurs? Ça va mal en France. Les gens ne sont pas si bien que ça dans leur peau, malgré l'abondance de vie et bien des choses qu'il y a en France. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal dans le cœur de l'homme. Et la Bible dit que c'est le mal de ne pas connaître Dieu, de ne pas connaître son amour. C'est le mal du péché qui nous ronge. C'est d'être enfoncé au fond d'un abîme et d'essayer de s'en sortir soi-même et d'essayer de s'améliorer. Vous avez essayé de vous améliorer? C'est comme mettre les mains sous ses pieds et d'essayer de se soulever, ça ne marche pas. J'ai déjà essayé, n'est-ce pas, de m'améliorer, je m'en passe. Je demande si ça ne marche pas. Vous avez déjà pris les résolutions, maintenant ça va changer dans ma vie. Et le jour même, c'est exactement l'inverse qui se passe. Parce que la meilleure résolution, lorsqu'elle n'est pas liée à une transformation de cœur par la puissance de Jésus-Christ, ça ne marche pas, ou ça marche qu'un certain temps, mais très limité. Dieu est prêt à transformer le cœur de l'homme. Il y a un révolutionnaire qui s'appelait Che Guevara, vous connaissez, qui a dit, ma révolution ne m'intéresse pas si elle ne change pas le cœur de l'homme. Ah ben, Jésus, lui, il a une révolution permanente. Celle de Che Guevara est passée, mais Jésus a une révolution permanente, c'est de transformer le cœur de l'homme. Comme des brebis qui n'ont point de berger. En fait, cet état d'épuisement et de souffrance, il est là parce que ce sont des brebis privées de direction, de protection, de nourriture, parce qu'elle n'a point de berger. Donc c'est un troupeau qui est laissé aux prédateurs. En fait, c'est une image juste et frappante de l'état d'âme, sans lumière, sans paix, sans Dieu. La Bible dit que sans le salut, sans Jésus-Christ, on est sans Dieu, sans espoir, sans espérance dans ce monde. Ce n'est pas que quelque part Israël, Jésus s'adresse à la foule en Israël, n'avait pas de berger. Ils avaient une foule de bergers, mais c'était des faux bergers, des faux prophètes qui ne les amenaient pas à la vraie nourriture spirituelle, à une relation permanente et personnelle avec Dieu. Ces brebis étaient harcelées, courbées. Elles n'étaient pas capables d'être guidées et de se protéger. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a toutes sortes de faux bergers. Il y a des sectes, il y a des gourous, il y a des diseuses de bonne aventure, des voyants, des faux prophètes. Savez-vous quoi? Que les Français, je ne dis pas nous, parce que moi, je n'aime pas voir les voyants, mais les Français, en grande majorité, vont voir des voyants pour prédire leur avenir. Quand ils ont un mal, une souffrance, qu'est-ce qu'ils vont voir? Le guérisseur, le voyant. Et même on dit qu'on dépense plus d'argent parfois en voyant les voyants qu'en voyant nos médecins. Mais le mal de l'âme, c'est un mal du cœur que seul Dieu peut transformer. Et Jésus, parce qu'il voit ce cœur abattu et languissant, est prêt à le transformer. Alors, quelle est la réponse de Dieu? C'était un peu mon introduction de ce matin. Face aux besoins du monde, on est écrasé. Mais quelle est la réponse de Dieu? Il dit à ses disciples. Et le message et l'appel de Dieu s'adressent encore à son Église, à ses disciples. Il dit à ses disciples, face aux besoins de ce monde, Dieu veut agir. Et il s'adresse à son Église. Et il parle à ses disciples, comme il veut nous parler aussi. C'est la même chose d'aujourd'hui. Dieu s'adresse à son Église et dit « La moisson est grande ». Quand Jésus était avec la Samaritaine, que ses disciples étaient partis prendre la nourriture pour préparer le repas, la Samaritaine a été transformée, elle est revenue à son village, les disciples sont allés là, mais la Samaritaine a parlé de sa rencontre avec Jésus à tous les habitants de son village. Et les gens sont venus rencontrer Jésus. Son témoignage a été tellement puissant que les gens sont venus vers Jésus et Jésus, en regardant ces gens venir, a lui a dit « Voilà la moisson ». La moisson est grande. Ce n'est pas une question de temps de la moisson, mais de la quantité de moisson. Nous pensons et nous avons ce piège parfois, Dieu veut envoyer un réveil en France. Amen. Amen. Dieu veut sauver les âmes dans le monde entier. Et la France est un milieu qui est sous-évangélisé, soi-disant croyant, mais c'est un peuple perdu dans ses décisions, dans sa façon de vivre. C'est un peuple perdu, privé de l'évangile, parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu réellement. Et les statistiques le montrent, et les gens le disent, qui sont athées, qui sont agnostiques, qui ne veulent rien savoir de Dieu. Le monde est perdu. Mais nous avons tendance à dire, ça prend un réveil. Quand il y aura un temps de Dieu, ce sera le réveil. Mais nous avons oublié peut-être qu'il y a une moisson maintenant que Dieu veut qu'on récolte et qu'elle est en grand nombre, beaucoup plus que ce qu'on pense, si nous nous levons pour récolter la moisson, si nous faisons l'œuvre de bon évangéliste. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Il y a un travail de labeur, il faut labourer, il faut défricher, labourer, ensemencer, mais le jour où on récolte la moisson, il y a de la joie. Nous habitons la campagne, la plupart des gens nous ont visités ici ou sont venus chez nous. Et en fait, à la campagne, maintenant, c'est la récolte. Et c'est bon d'entendre l'agriculteur avec ses grosses machines, jour et nuit, n'est-ce pas, récolter, parce que c'est le moment. C'est tout un travail de récolter. Mais certainement, il se réjouit de voir le blé pousser qu'il peut récolter après avoir semé, labouré avec travail fort. En fait, Dieu nous demande d'ensemencer. La moisson est grande et nous allons récolter si nous ensemençons. J'aimerais vous donner deux anecdotes. Adoniram Johnson est un missionnaire américain qui partait missionnaire en Inde et qui finalement a été missionnaire en Birmanie parce que son bateau s'est échoué juste en face de la Birmanie. Il a traduit en birman, enfin, le langage de la Birmanie, j'appellerai le birman, excusez-moi. Et puis, il a traduit l'évangile, il a semé, il partait en pirogue dans les villages comme ça. Savez-vous quoi? Que quand il est revenu des années plus tard, des populations entières s'étaient converties et s'étaient organisées en église. Ça montre la puissance de l'ensemencement. On ne sait jamais un traité qu'on distribue, à qui on le distribue. Alors que j'étais étudiant nouveau converti, excusez une anecdote encore personnelle, j'ai distribué un traité Place Wilson, ici à Toulouse, et j'ai rencontré un ancien copain de classe, un peu plus jeune que moi. Et je lui ai fait part de ma conversion, je lui ai donné un traité. Je pars au Canada, je crois que c'est 10 ou 15 ans plus tard, je rencontre Olivier Bourgeois, que certains connaissent ici, un cher frère. Il me dit, tu sais, j'ai rencontré un copain à toi qui s'est converti. J'ai dit, ah bon, oui, il s'appelle Pierre Ménial, il m'a parlé de toi, il m'a dit que tu l'as rencontré un jour, que tu lui as donné un traité, qu'il a été bouleversé, et suite à un autre témoignage, il s'est converti. Et pendant 10 ou 15 ans, je n'avais aucune connaissance de cela. Dieu bénit sa parole et notre témoignage. Nous ne pouvons récolter ce que nous n'en semençons pas, et Dieu nous demande d'aller, de faire toutes les nations des disciples. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Levons-nous et récoltons. Parce qu'il y a un temps pour semer, mais il y a un temps aussi pour récolter, croyant que Dieu veut nous utiliser à sa gloire. La Bible dit ici, à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous allez me dire, mais cela ne change pas aujourd'hui. La Bible dit que nous devons être ouvriers avec Dieu, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Et être ouvriers pour la vérité, nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient ouvriers avec lui, qui soient ouvriers pour lui. Et Dieu cherche des hommes et des femmes aussi limités que vous et moi. C'est la grâce de Dieu qui permet cela. Et voilà la réponse maintenant, et on va terminer avec cela. Voilà la réponse de Dieu. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Deux choses, priez, envoyez. Ma part, c'est de prier. La part de Dieu, c'est d'envoyer. C'est un ordre. Attendez, est-ce que Dieu n'a pas promis d'exaucer les prières que lui-même demande? La Bible dit, priez d'envoyer les ouvriers dans la moisson, le maître de la moisson. Si je prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, est-ce qu'il va envoyer des ouvriers? Oui, il va envoyer des ouvriers, dans la mesure où je prie. Dieu n'a-t-il pas promis d'exaucer les prières qu'il nous demande de nous exprimer devant lui? Dieu veut envoyer des ouvriers. Comment se fait-il qu'il y a un peu d'ouvriers? Ben, la réponse est simple, le peuple de Dieu ne prie pas assez. Ou les ouvriers qui sont appelés ne répondent pas à l'appel de Dieu. En fait, Dieu nous dit qu'il y a une moisson ici. Ça fait deux versets où Dieu parle de la moisson. Et Dieu veut que nous récoltions cette moisson en faisant de nous des ouvriers. Maintenant, vous savez, Dieu a de l'humour ici. Parce qu'il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Le mot envoyer est un mot très fort dans l'original ici. C'est un mot qui dit comme projeter, pousser à travers, avec ou sans force. Je me souviens, mon professeur de grec, lorsqu'il a voulu nous expliquer ce mot, il nous a dit, voilà, c'est comme si je prenais quelque chose et je le projette au travers de la fenêtre. Pourquoi est-ce que Dieu est-il forcé d'envoyer, de pousser les gens d'aller dans sa moisson? Parce que les ouvriers ne répondent pas à l'appel et sont lents à répondre à l'obéissance de Dieu, qui veut que toutes les nations soient évangélisées. Alors il pousse, il donne une bonne poussée dans le dos des ouvriers, il les lance parce que nous avons tendance à ne pas vouloir répondre à l'appel de Dieu. Par exemple, Jérémie a dit, et moi pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Parfois il y a des appels forts du Seigneur, on se dit, mais quand même, je ne peux pas désobéir, Dieu m'appelle. Mais on est lent à répondre à l'appel de Dieu. Isaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ah, voilà un qui a répondu. Et l'apôtre Paul a répondu aussi à l'appel sur le chemin de Damas. Il a été quand même pas mal forcé, l'apôtre Paul. Il est devenu aveugle, il est tombé de son cheval et Dieu lui a forcé à reconnaître que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Est-ce que nous avons vraiment à cœur la mission? Est-ce que nous avons, comme Dieu a, à cœur la mission? Peut-être nous ne pouvons pas aller au loin. Tout le monde n'est pas appelé peut-être à quitter sa maison, sa famille et son pays pour aller au loin. Mais nous avons besoin de répondre à cet appel là où nous trouvons et d'être ouvriers pour Dieu dans la moisson que lui-même a préparée. C'est lui qui envoie. Mais notre responsabilité d'église, c'est de prier. Il y a un homme qui s'appelle Oswald Smith. Bon, c'est du siècle passé. Mais il a un bon témoignage, cet homme-là. Il a voulu vraiment plaire à Dieu. Il a écrit d'ailleurs un bouquin qui s'appelle « La passion des âmes ». Je vous recommande fortement à le lire. Et cet homme du Canada a décidé d'être missionnaire. Il se sentait appelé. Il avait un fardeau tellement fort pour être missionnaire. Il est allé sur le champ missionnaire, mais à cause des problèmes de santé, il a dû retourner à cause de la faiblesse physique dont il était l'objet. Mais savez-vous quoi? Cet homme-là a fondé une église à Toronto, qui est connue dans le monde entier, et qui a envoyé jusqu'à 200 missionnaires dans le monde, soutenu 200 missionnaires dans le monde. Pourquoi? Parce que cet homme avait compris le fardeau de Dieu. Il fut ému de compassion devant les foules. Et Billy Graham a écrit un livre qui s'appelle « À toutes les nations ». Est-ce que nous avons la compassion de ceux qui nous entourent? Est-ce que nous avons de la compassion pour ceux qui sont nos voisins? Est-ce que nous avons de la compassion pour ceux avec qui nous travaillons? Pour nos bien-aimés de nos familles? Est-ce que nous avons de la compassion pour notre pays, pour notre ville, pour le monde entier? Si nous avons de la compassion, qui est la vraie motivation de l'œuvre missionnaire, alors Dieu va nous envoyer. En chapitre 10, verset 1, il est écrit, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. » Si nous répondons à l'appel de Dieu, certainement lié à la prière, nous allons recevoir et nous vivrons la puissance de Dieu qui nous équipe alors, justement, pour faire de toute une nation des disciples. Avons-nous plongé notre regard dans le cœur de Dieu pour avoir de la compassion envers ceux qui nous entourent? Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous te demandons dans ta bonté de nous visiter et nous confessons notre manque de compassion parfois envers les gens qui nous entourent. Mais merci Jésus de ta grande compassion. Merci de ta bonté. Merci de ta fidélité. Merci de ton salut qui est parfait. Et ce matin, nous te remercions parce que nous avons ce privilège de pouvoir prier et te demander de remplir nos cœurs de compassion et d'être prêt à être envoyé, de répondre à cet appel pour te glorifier dans les vies. Nous t'amenons nos cœurs, Seigneur, et nous te donnons toute la gloire. Amen.